Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Incroyable, le directeur de la rédaction de L'Express était un agent du KGB. Recruté en 1946, il a travaillé pour Moscou jusqu'en 1981. Philippe Grumbach, alias Grok pour les Russes, était non seulement à la tête du magazine le plus influent de France, mais c'était aussi et surtout un proche de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Comment peut-on ainsi, pendant si longtemps, mener une double vie, naviguer au cœur du pouvoir et trahir son pays pour l'URSS de Brejnev et d'Andropov? Ces méthodes soviétiques sont-elles toujours en cours aujourd'hui à Moscou? De quelle façon la Russie espionne-t-elle la France et tente-t-elle d'influer sur les affaires du pays? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Directeur de l'Express et espion du KGB ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Christophe Gomard. Vous êtes l'ancien directeur du renseignement militaire, ex-commandant des opérations spéciales. Jean-Dominique Mercier, éditorialiste à L'Opinion, auteur de « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» C'est chez Robert Laffont et ça vient tout juste de sortir. Stéphanie Duncan, vous êtes productrice à France Inter. Je cite votre série de podcasts « Espion, une histoire vraie » ainsi que le livre qui en est issu, publié, c'est une coédition Radio France Talendier. Et Anthony Bélanger, éditorialiste à France Info TV et France Inter, spécialiste des questions internationales. Merci de participer
Merci à
cette
vous.
Émission en direct. Stéphanie Duncan, alors c'est l'Express lui-même qui, à la une, révèle que son ancien patron était un agent du KGB. Et l'Express, il faut savoir ce que c'était dans les années 70.
C'était un immense hebdomadaire, c'était une institution même de la presse, on peut le dire, proche d'ailleurs aussi de la politique, des grandes de ce pays. Quoi.
Et Philippe Grumbach, c'était...
Philippe Grumbach, il était considéré comme un aristocrate de la presse, c'est comme ça qu'on l'appelait, patron donc de l'Express, et apparemment un des plus grands espions de la Ve République, c'est ce que dit en tout cas... l'article d'Étienne Girard, cette enquête qu'il a menée grâce au travail d'un historien, il faut le souligner, Cyril Gulipter, qui est allé à Cambridge pour aller travailler sur les archives Mitrokhine.
Alors voilà, parce qu'il faut raconter, en fait, il y a l'un des responsables du KGB, Mitrokhine, a fait sécession, comme on dit, en 92, il a demandé l'asile politique
au
Royaume-Uni et il a balancé tous les noms des espions de l'Ouest qui travaillaient pour Moscou.
C'est un personnage, il faut s'arrêter dessus, je pense, deux secondes. Vassili Mitrokhine, donc c'est un homme qui s'occupe des archives du KGB en Union soviétique, les années 60-70. On n'a aucune idée à ce moment-là que l'URSS va s'écrouler. Et dans son coin, il est dégoûté, il est désillusionné par l'Union soviétique, par le KGB. Et il va dans son coin copier à la main énormément de documents, donc sur les noms des agents qui travaillent à l'étranger pour le KGB. Il va faire ça pendant des années, c'est un travail de fourmi. Et donc en 92, il se rend dans les pays baltes, il va à l'ambassade d'abord des États-Unis pour proposer ses documents. L'ambassade des États-Unis refuse, il dit c'est pas vrai, c'est pas possible. Il va à l'ambassade
du Royaume-Uni.
Alors on le voit, c'est
Mitrokhine, on le voit à la photo.
Voilà, c'est lui.
C'est lui, donc cet ancien du KGB qui est passé à l'Ouest.
Voilà, qui est passé à l'Ouest et qui va donc donner ses documents à l'université de Cambridge et sortir un livre en 1999 qui va révéler effectivement beaucoup de noms. Mais il n'a que les noms de code, il ne donne pas les véritables identités.
Alors le nom de code de Grumbach, c'était
Brok. Brok, oui.
On a sa fiche.
On avait ce nom.
Brok, né en 1924, juif, citoyen français, directeur du journal L'Express, a de bonnes relations avec Edgar Faure et Mitterrand.
Alors lui, apparemment, il s'est engagé, il a proposé ses services, il a été engagé par le KGB en 1946. Donc on est juste après la guerre, c'est un contexte quand même où le Parti communiste a un énorme poids, une énorme influence dans le milieu intellectuel. Il y a certainement un engagement idéologique de sa part. Il travaille à Libération, pas le Libération de Jean-Paul Sartre, mais le Libération de l'époque, qui est un journal qui est financé de manière occulte par le Parti communiste français. Et il travaille là, mais à partir d'un certain moment, à partir du moment où il est engagé par le KGB, il va sortir de cette image d'homme de gauche pour intégrer la presse dite centriste.
Parce que les Soviétiques encourageaient ça. Il faut aller porter la bonne parole, voilà, en sortant du Parti
communiste. Il faut cacher ses motivations personnelles. C'est ce qui est arrivé à Kim Philby, l'espion anglais du groupe des cinq de Cambridge. Donc ça, c'est en 1939. Mais c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire, on lui dit, terminez votre côté pro-Union soviétique. Il faut cacher tout ça. Vous devenez un bon journaliste dans un journal conservateur. Vous épousez une femme convenable. Vous avez des enfants. Vous êtes un homme maintenant de l'establishment. Et c'est un peu, je pense, ce qui est arrivé à Philippe Grimbach.
Un homme de l'establishment. Jean-Dominique Mercier, je ne sais pas. Parce que l'Express, donc on a dit, il faut voir ce que c'était dans les années 70 en termes d'influence. C'est un peu comme si on apprenait aux États-Unis que le patron de Google était un espion à la botte des Chinois ou
ah
des
oui,
Russes.
C'est, hein. C'est une énorme... enfin, moi, je suis tombé assis quand j'ai découvert ça. Philippe Grimbach, moi, c'est pas du tout... Ce n'est pas notre génération. Mais c'est un nom qu'on connaissait parce que ça fait partie des grandes stars de la presse française, clairement. C'était un grand directeur de l'Express. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'était pas là pour faire de l'influence. Il n'était pas là pour orienter dans un sens...
Parce que l'Express n'était pas un magazine...
Pas du tout. C'était... Pourquoi
orienté il... très à gauche.
Alors, c'était un magazine centriste. Mais disons, c'était l'incarnation vue du côté soviétique, de la presse bourgeoise. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne s'agit pas d'influencer, il s'agit de renseigner. Quand vous avez un gars comme ça, il a accès, parce qu'il appartient, parce que c'est une star de la presse bourgeoise, il a accès eh bien, à toute la classe politique française, à un très haut niveau. François Mitterrand, Pierre Mendès France, Edgar Faure, Valéry Giscard d'Estaing. Le plus important de tous étant Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui à l'époque était à la fois le directeur de l'Express, mais aussi un homme politique. Et donc c'est ça qui intéressait les soviétiques. C'est-à-dire, c'est ça qui... Parce qu'il leur parlait, il les voyait. C'était quelqu'un de très mondain, qui vivait aussi dans le milieu du cinéma. Donc il avait un formidable carnet d'adresses. Il voyait tout le monde. Et donc, il savait...
Là, on le voit,
avec Philippe Mitterrand.
Avec Mitterrand. Voilà.
Mais il était très lié au président Giscard d'Estaing à l'époque du mandat Giscard d'Estaing.
Et donc, le soir, il télégraphiait à Moscou ses échanges avec Giscard.
Alors, ce qu'il faisait exactement, ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'était pas là pour faire passer des messages, dire « oui, l'Union soviétique, c'est un pays sympathique ». Ça, il y avait des gens pour le faire, l'humanité, les communistes et tous les compagnons de route. Non, non, lui, surtout pas. Lui, il devait au contraire afficher un profil anticommuniste, de droite, bien bourgeois, pour donner confiance. Il avait la confiance des dirigeants politiques et à partir de cette confiance, il avait des vraies informations sur ce que pensaient réellement sur ces gens-là, sur ce que voulaient vraiment faire ces gens-là. Et ça, c'est incroyablement précieux parce que vous n'avez pas ça en captant les documents officiels quand vous êtes dans le bureau du président de la République ou du principal opposant du président de la République et que le gars vous dit « bon ouais, enfin ça, on ne va pas le faire, ça je vais le faire, ça je pense que ce n'est pas comme ça », vous avez, c'est ce que le général Gomard peut nous témoigner, c'est du renseignement humain de qualité A1. De qualité A1, c'est-à-dire c'est incroyablement précieux. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre, ce n'était pas un agent d'influence, c'était un agent de renseignement.
Alors on l'a quand même pris une ou deux fois à exercer quand même une certaine influence à des moments cruciaux, notamment au moment de l'affaire de Suez, où l'article raconte d'ailleurs d'une manière absolument remarquable comment il avait des sources, qui étaient probablement soviétiques, capables de dire, d'une part, que quelque chose se préparait autour de Suez, que l'armée, et ensuite...
L'expédition franco-anglaise de 1956.
Je rappelle, en 1956, une expédition franco-britannico-israélienne visant à reprendre le canal de Suez à Nasser et à forcer la main du nationalisme égyptien, et en l'occurrence Nasser à l'époque. Il faut savoir que Nasser était l'allié des soviétiques et que les Israéliens étaient, comme les franco-britanniques, étaient les alliés des Américains. C'était d'une certaine manière la dernière fois que la France et la Grande-Bretagne exerçaient une forme d'impérialisme dans cette région du monde où ils avaient exercé une influence très forte depuis la Première Guerre, enfin depuis en tout cas au moins un siècle. Les Français décident d'y aller, ou plutôt hésitent à suivre les Britanniques. Et à ce moment-là, notre directeur de la rédaction de l'Express fonce dans les bureaux des uns et des autres et essaye de faire hésiter la France. et essaye d'expliquer que cette opération n'est pas forcément une bonne idée, ou en tout cas qu'elle pourrait nuire à la France. D'ailleurs, ce qui est absolument vrai, c'est-à-dire qu'il a, il avait raison. Mais il y a eu deux jours pendant lesquels, effectivement, sous son influence, la France a hésité à suivre les Britanniques.
Est-ce qu'il l'a fait ? Il l'a fait sous la dictée de Moscou ?
Il parlait de ses sources.
Qui était soviétique.
Qui était en fait soviétique, oui. Et donc là, c'est peut-être la seule fois, mais pour une raison, je pense, cruciale. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez mille fois raison de souligner que ce n'était pas un agent d'influence, que c'était vraiment un agent de renseignement, et que ces renseignements étaient très précieux. Il y a probablement quelques fois, dans sa carrière qui a duré 35 ans, pas 2 ans, 10 ans, 15, 35 ans, où il a quand même, pas servi les intérêts russes, mais... Enfin, si, tout, on peut dire ça. Il a quand même essayé d'influencer à des moments.
Il a aussi essayé de faire capoter l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. C'est apparemment une mission qui est avérée, qui était dans le dossier Mitrokhine, donc dans les archives du KGB. Il a raté l'opération.
Donc les Russes voulaient faire élire François Mitterrand.
Voilà. Ils ont essayé de faire.
C'est très étonnant.
C'est ce qui est dit dans l'article.
Oui, mais ça me semble très bizarre.
Alors, général Christophe Gomard, Andropov lui-même, le patron du KGB, qui deviendra par la suite
secrétaire général de l'URSS,
dira de lui que c'est un très bon agent. Qu'est-ce qui fait quand même qu'on puisse, alors qu'on est dans les plus hautes sphères de l'État français, trahir son pays? Alors c'est quoi, en 46, il était communiste, communiste un jour, communiste toujours?
Vous savez, on trahit pour quatre choses. En français, c'est le mot vice, V-I-C-E, V comme vénal, I comme...
Donc, l'argent.
L'argent, idéologie. Le I.
Le communisme. Le
communisme. La compromission. Donc après.
Ah, une fois qu'on a mis le doigt dedans.
On a mis le doigt dedans, c'est difficile. Voilà. Et le dernier, c'est l'ego. Le E, c'est l'ego. En anglais, c'est mice. En fait, ça veut dire exactement la même chose. Et donc, je pense que Philippe Grumbach, c'était au départ, effectivement, si on disait qu'il était communiste, c'est par idéologie au départ. Et puis ensuite, on l'a payé pour ça. Et une fois qu'on l'a payé, il a mis le
doigt. Il aimait bien l'argent, c'était écrit.
Il a mis les doigts dans la prise, et c'est difficile de retirer les doigts de la prise. Parce que ensuite, celui qui vous paye, il va dire, ah, si tu arrêtes, je vais le dire.
Ouais.
Et
compte
tenu du statut qui était le sien, j'imagine bien que Philippe Grumbach n'avait aucun intérêt à ce que ça se sache. D'ailleurs, on le sait qu'aujourd'hui. Et donc, ça a été bien caché. Mais donc, il a dû les renseigner jusqu'au dernier moment. Je crois qu'il s'est fait un peu lourder en 80-81.
Il s'est fait lourder en 80.
C'est-à-dire qu'effectivement, ils estimaient qu'effectivement, il ne produisait plus rien d'intéressant au profit en termes d'information. Mais ce que disait Jean-Dominique Mercier est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il il avait l'oreille du président français Valéry Giscard d'Estaing. Il avait l'oreille d'un certain nombre de dirigeants, d'opposants politiques. C'est génial.
Oui, c'est génial.
Je pense aussi qu'il peut y avoir, chez un espion comme ça, un agent, un désir, un frisson d'avoir une double vie.
Oui.
Je pense que ça peut exister aussi. Quand on est comme ça, un personnage aussi important dans la vie française, une espèce de, un grand bourgeois, qui a une vie confortable, et qui peut avoir intérieurement un désir de... d'avoir une double vie, d'avoir autre chose, comme un mystère, une adrénaline. Oui, c'est ça.
C'est très juste. Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, on disait que c'était un fantasme, cet œil de Moscou qui était partout. En fait, on se rend compte, vous me disiez, Charles Hernu, ministre de la Défense de François Mitterrand, enfin, qui aurait imaginé qu'au début des années 80, le ministre de la Défense de la France... à une époque où quand même on avait des embris atomiques parce qu'on craignait que les chars russes n'arrivent à Paris.
Charles Hernu, c'était avant qu'il soit ministre. Mais ça a été dévoilé très tardivement, bien après sa mort, qu'il avait travaillé pour les services roumains, qui travaillaient évidemment pour les services avec les services.
Dans le bloc de l'Est.
Oui. Absolument. Mais oui, l'affaire Charles Hernu, c'est aussi incroyable que l'affaire Grumbach. C'est des cas très, très, très fort.
Et c'est pareil, c'est la même dynamique. C'est au début par un sympathie communiste.
Oui, et puis l'argent.
Et les femmes.
Tout ce qu'on voudra,
Il y avait aussi,
tout ce que permet l'argent.
Il y avait aussi le rôle tout particulier qu'avait la Roumanie dans l'enceinte du bloc communiste. Pour parler de Claude Hernu. Charles Hernu, enfin, la Roumanie, à l'époque, toujours dirigée par Ceausescu, c'était un peu le chéri-bibi de l'Ouest. On les recevait. fait parce qu'ils étaient, on avait l'impression que c'était les seuls à pouvoir dire leur fait aux Russes. C'est-à-dire dire qu'ils n'étaient pas d'accord, par exemple, sur l'invasion, sur la répression de l'affaire tchécoslovaque, ni même le printemps du printemps de Prague, ni même 10 ans auparavant de ce qui s'était passé en Hongrie. Et donc il y avait une partie de l'élite politique française qui s'était pris de sympathie pour ce couple au pouvoir, semblait plus ouvert et qui semblait ne pas être aligné avec Moscou. Donc il y avait à la fois un peu de romantisme et puis aussi un peu de calcul politique.
Et économique aussi, parce que Ceaușescu exportait ses céréales alors que les Roumains mouraient de faim.
Alors, l'enquête du journal L'Express révèle donc que l'un de ses anciens directeurs a été un espion du KGB, le service de renseignement de l'URSS, et ce pendant 35 ans, jusqu'en 1981. C'est un sujet de Magali Lacroze, Anne Maquignon, avec Ariane Morisson.
C'est une histoire que personne ne devait connaître. Une histoire d'espion de guerre froide et de journaliste.
Le président de la République s'entretient avec
Philippe Grumbach, le directeur de l'Express.
Depuis les années 50, Philippe Grumbach est un visage médiatique très connu. Il a la confiance des politiques. Il devient même le conseiller le plus écouté du président Giscard.
Dans quel climat est-ce que s'est passé cet entretien avec le chef de l'État ?
Dans un climat de très grande franchise, parce que le président de la République a accepté de répondre à toutes les questions que je lui ai posées. Et il n'en a évité aucune.
Cet homme n'est pas celui que vous croyez. À Moscou, le directeur de l'Express est Brock, l'un des plus grands agents du KGB en France pendant 35 ans.
Dans son dossier au KGB, ce qui les intéressait, ce pourquoi il a été recruté et sa plus-value, sa valeur ajoutée, c'est écrit comme tel, sa proximité avec des hommes politiques puissant au plus haut niveau de l'État. Il y a une seule de ces missions qui est précisément détaillée dans les archives. On est en 1974, c'est la campagne présidentielle. Georges Pompidou vient de mourir, il y a deux candidats de la droite. Et Philippe Grumbach va essayer de fâcher ces deux candidats pour faire gagner François Mitterrand, à l'époque allié avec les communistes.
L'espion français fait parvenir un document à Jacques Chaban-Delmas, candidat de la droite. Un faux document fabriqué par le KGB avec de fausses consignes de la CIA pour lui faire croire que Giscard est soutenu par les Américains.
L'idée, c'est d'empêcher l'alliance de la droite, des deux candidats de la droite, des deux branches de la droite au second tour de la présidentielle. Pour autant, Valéry Giscard d'Estaing gagnera quand même l'élection.
Le travail de Grumbach pour le KGB s'arrête en 1981. Personne n'a jamais rien su de son idéologie communiste ni des rétributions de Moscou. En l'an 2000, l'ancien agent sera interrogé par un journaliste bien renseigné, mais l'affaire ne sortira pas. Grumbach décide de confier le secret de sa vie à sa femme. Il décède quelques mois plus tard.
Il m'a expliqué qu'il avait été révolté par le racisme qu'il avait observé au Texas lors de son service militaire, qu'il avait voulu arrêter très rapidement, mais qu'il ne pouvait pas, qu'il était menacé et avait eu peur pour sa famille de l'époque.
Le contre-espionnage français estime que Grumbach a pu durer aussi longtemps en tant qu'espion parce qu'il mettait l'Express à l'écart de ses activités. L'Express, c'était en quelque sorte sa légende, ça le crédibilisait en tant que journaliste modéré, et c'est parce qu'il n'a pas utilisé l'Express pour ses activités d'agent qu'il a pu durer aussi longtemps.
Quelle a été la réelle influence de Brock ? Quelles informations a-t-il donné à qui ? Et quelles ont été les conséquences ? En pleine guerre froide, un autre journaliste français, mais du canard enchaîné, Jean Clémentin, était agent pour les services tchécoslovaques. Il est mort l'année dernière, en portant, comme Grumbach avant lui, ses plus grands secrets et peut-être ceux des autres.
Stéphanie Duncan, Alain dans le Val-de-Marne, question téléspectateur. Philippe Grumbach, patron de presse très influent, proche des présidents de la République française, espion du KGB. Comment est-ce possible et comment se fait-il que dans les rédactions, que ce soit d'ailleurs pour l'affaire Clémentin ou l'affaire Grumbach, c'est-à-dire qu'au Canard enchaîné comme à l'Express, personne n'avait remarqué qu'ils étaient dirigés par un agent double ?
Bah, écoutez, c'est l'art de l'espion, c'est d'arriver à à séparer sa vie en deux, quoi. Enfin, ou en trois quand c'est un agent triple, mais en l'occurrence, ils ont eu le talent de le faire pendant un certain nombre d'années. Donc Grimbach, c'est vraiment 35 ans, c'est énorme. Jean Clémentin,
ça suppose de prendre des précautions quand on rencontre des contacts.
Oui, probablement, oui.
Donc, de quel type
Clémentin, il retrouvait son officier traitant dans des cafés enfumés du quartier Montparnasse. Et voilà, je ne sais pas, c'est vrai que c'est un peu étrange.
Jamais le même, j'imagine ?
Non, jamais le même, je pense. Non.
Mais Clémentin avait été repéré par les services.
Alors Clémentin,
manifestement, ne l'a jamais été.
Alors Clémentin, donc, c'est un journaliste un peu donneur de leçons au Canard Enchaîné, qui était très autoritaire, paraît-il. On a appris que lui aussi, alors il travaillait pour les services secrets.
Tchécoslovaque.
Oui, il disait tchécoslovaque à l'époque. C'est comparable, ces deux affaires, Stéphanie Duncan?
Il y a des similitudes. Bon, Grimbach est un personnage beaucoup plus important, directeur de l'Express. Il a donc espionné pendant 35 ans. Grimbach, ça a été plus court, sa carrière d'espion. Clémentin, donc de 1900, à la fin des années 50, fin des années 60, donc une dizaine d'années.
On l'appelait le robinet tant il produisait de notes pour ses amis tchécoslovaques.
Oui, le robinet, oui, Pipa, c'était son
Pipa, voilà.
Code tchécoslovaque.
Pas moins de 300 notes au cours des 270 rencontres en France et à l'étranger.
Apparemment, lui aussi, c'est des motivations idéologiques qui l'ont amené à travailler pour l'Est de l'époque. Donc, il va en Indochine, il est soldat et il est dégoûté par la France coloniale, par la guerre qui est menée là-bas. Et il revient et il travaille, je crois que c'est à Libération aussi, le Libération de l'époque. Et il va rencontrer un agent, un diplomate de l'ambassade de Tchécoslovaquie. Donc, on est à l'époque, évidemment, du communisme. Et il va, fil en aiguille, donner beaucoup de renseignements au STB, donc le service tchécoslovaque. Et il va aussi, sur ordre du STB, donner des informations fausses qui vont être,
publier de fausses infos dans le Canard Enchaîné.
Voilà, notamment, par exemple, il y a une histoire en 63... Ah bon, c'est très ancien comme histoire. C'est à l'époque où Konrad Adenauer, donc le chancelier d'Allemagne de l'Ouest, vient de démissionner. Il est soupçonné par ses amis politiques d'avoir trop d'amitié avec De Gaulle. Et il y a cet article qui sort et qui dit que justement Adenauer a fait des combines avec De Gaulle, etc. Donc c'est pour discréditer De Gaulle, discréditer Adenauer. Il va faire d'autres au moment de l'affaire Ben Barka aussi, donc au moment de l'assassinat de l'opposant marocain, il va sur ordre du STB toujours.
Donc les services secrets tchécoslovaques.
Voilà, le service secret tchécoslovaque, il va donner toujours avec un ton drôle aussi. Ses articles sont amusants. Et c'est un personnage, on le voit là à l'image, c'est un personnage assez sympathique, jovial, et donc une information disant que c'était les Américains qui étaient les services secrets américains qui étaient derrière l'assassinat de Ben Barka.
Général Christophe Gomard, pourquoi les services secrets? Parce qu'on parlait de Moscou, mais là on parle des services secrets tchécoslovaques. Pourquoi s'intéressait-il à la France?
Parce que dans les plans de l'URSS, le pays qui devait envahir la France, si guerre il y avait, c'était la Tchécoslovaquie.
Ah, il y avait un plan et donc les Tchécoslovaques devaient s'occuper de notre cas.
Absolument. Et ce qui fait qu'effectivement les services secrets tchécoslovaques...
Ça montre le peu d'abord... de considération que vous avez à l'égard de...
Oui, mais enfin, il y avait là...
Il n'était pas tout seul.
Le pacte de Varsovie derrière.
Il n'est pas tout seul, quand même. Il y avait la masse soviétique.
C'est vrai que les divisions tchécoslovaques...
C'était les Tchécoslovaques qui étaient chargés, effectivement, en cas d'invasion, d'attaquer la France directement. D'où le besoin d'être informé, d'influer, de... Voilà. Et d'où, effectivement, sans doute... Il y a eu d'autres agents, sans aucun doute. On parle de Clémentin, on parle de Grimbach, mais il y en a forcément eu d'autres. Pas forcément au même niveau, mais à des niveaux inférieurs. On a besoin de plein de gens, en réalité.
On parle de journalistes au monde, quand même. Il y a des noms qui circulent encore, mais on ne compte rien. Mais ce qui est fascinant, surtout, c'est que c'est combien... comment dire? Il y a deux choses. Il y a combien ces archives de Cambridge parlent encore? Et on est en 2023, elles ont été déposées.
Les archives de Cambridge, c'est ce fameux responsable du KGB qui est parti à l'Ouest en 92 et qui a révélé toutes les sources de l'Ouest qui travaillaient pour le Moscou.
Voilà. Et combien elles parlent encore? Moi, je suis surtout étonné du fait que personne n'ait travaillé plus tôt sur ces archives. concernant la France. Ah oui. Ou en tout cas, pour le... Et puis la deuxième chose qui est très intéressante, c'est quand sont-elles sorties ces archives? C'est-à-dire quand cet homme, cet espion russe, a fait défection et passé côté à l'ouest. Il est parti dans cette décennie de 90 à 2000, c'est-à-dire avec entre la fin de l'Union soviétique et l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Autre espion du KGB, c'est 10 années pendant lesquelles, en fait, toute une série d'espions russes ont été retournés par les services occidentaux, notamment à destination de l'URSS, enfin de la Grande-Bretagne, des États-Unis un peu, mais aussi de la France. Et c'est une espèce de décennie magique, en fait, où on a à la fois donc les archives de Cambridge, où on a la défection de Skripal, où on a la défection de
Oleg Gordievsky aussi.
Voilà, de Litvinenko, qui est aussi partie de Russie.
C'est-à-dire que sur les décombres de l'URSS, tous les agents du KGB.
Il y a beaucoup. Eu une décennie.
Beaucoup sont partis à l'Ouest.
Une décennie de démocratie en Russie.
Et certains sont restés au Kremlin.
Certains sont restés au Kremlin, comme Poutine.
Oui.
Voilà. Et en fait, je pense qu'une partie de l'explication de la violence. De la réaction de Vladimir Poutine ensuite contre ces agents doubles retournés et partis. Donc je pense à Skripal, je pense à Litvinenko, la fait que vous savez, qui ont été tués au polonium ou qui ont mis en danger une ville entière, ont été tués avec
Novichok,
le fameux Novichok, est à l'aune de la violence qu'a subi le FSB, le KGB, futur FSB, avec cette décennie où il a perdu quelques-uns de ses
agents. Trahison. Alors Jean-Dominique Mercher. Oui.
Ouais, ce qu'on croit comprendre, c'est que Philippe Grumbach n'était pas le seul dans son cas. On croit comprendre qu'il y a un autre nom qui pourrait sortir.
Un grand patron de presse.
Un grand patron de presse français, oui. Enfin, un grand journaliste français. On croit comprendre ça. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les
rédactions concernées. Pardon.
C'est un peu difficile d'aller plus loin parce qu'on n'a pas de, on peut pas faire, pas porter d'accusation. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'entends depuis que j'ai appris ça.
Alors pourquoi ça veut dire que les journalistes au fond font de très bons espions?
Mais oui.
Mais oui, parce que les journalistes ont un accès au pouvoir. On est dans notre métier. On voit les responsables politiques, militaires, du renseignement. Voilà, moi, c'est mon quotidien, d'une certaine manière, depuis des années.
Ils vous disent des choses.
Mon job, c'est de voir des politiques, des militaires, des diplomates, des gens du renseignement. Donc, des gens comme nous. Enfin, comme nous, ou des plus grandes stars que moi, comme Philippe Grumbach, on est des sources d'informations extrêmement précieuses pour les services. Parce qu'il y a ce qu'on écrit, évidemment, mais évidemment, on est tenu parfois à ne pas écrire ce qu'on nous dit, non pas parce qu'on ne le cache, mais parce que ça fait partie du rapport.
Je te le dis, mais c'est en off.
On n'a
pas le droit de l'écrire.
On n'a pas le droit de l'écrire.
Juste pour donner
mais
du contexte.
Si ce qu'on nous dit en off, on le vend à un service étranger, ça les intéresse, le service étranger.
Bien sûr.
C'est parce qu'on écrit dans le journal qui les intéresse. Ils sont capables de l'acheter, ça coûte quelques euros, et voilà. En revanche, tout le contact, le background, le machin. Ah ouais, mais tu sais, il a vu un tel, il est copain, voilà sa stratégie, voilà ce qu'il va faire, voilà à quoi il pense. Tout ce qu'on pourra difficilement écrire pour des raisons. D'abord parce que souvent, en plus, c'est pas toujours très intéressant pour le grand public, mais ce qui n'est pas intéressant pour le grand public peut être extrêmement intéressant pour un service de renseignement.
Général Gomard.
C'est vrai que, pour avoir travaillé au service de relations publiques des armées pendant 2 ans et avoir été officier de communication d'opération avec des journalistes, les journalistes, on leur montre un tas de choses. Et ils rencontrent un tas de gens, en réalité. Donc ils sont au cœur de pas mal d'informations. Et quand on écoute votre petit reportage de tout à l'heure, Philippe Grumbach était conseiller de Valéry Giscard d'Estaing. Donc il avait des informations en direct. Il prenait le pouls de Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing le considérait comme un homme de confiance. Et quand on est au sommet du pouvoir comme ça, on a besoin de se confier. Et Philippe Grumbach devait dire aux soviétiques de l'époque ce que Giscard ressentait, ce qu'il était prêt à faire ou ce qu'il n'était pas prêt à faire, ce vers quoi, à quoi il pensait à l'instant T, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant.
Improbablement précieux, ça.
Ouais.
Stéphanie Duncan, question de Sylvain dans l'Allier. Qui était au courant pour Philippe Grumbach? Est-ce que personne en France ne savait? Ou est-ce qu'il y a des services secrets qui, par moment, s'interrogent sur tel et tel profil.
Et je ne sais pas, j'ai lu l'article comme vous, donc de l'Express. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend qu'en 2000, donc 3 ans avant la mort de Philippe Grimbach, un journaliste d'investigation, Thierry Volton, vient voir Philippe Grimbach et lui dit je sais que vous avez été un agent du KGB au début.
Il est mort depuis, Philippe Grimbach.
Oui, il est mort en 2003. Mais Philippe Grimbach, au début, ne le prend pas au sérieux. Mais finalement, il lui dit « Si vous dites quelque chose, je vous attaque. » Et Thierry Volton, apparemment, n'avait pas assez d'éléments de preuve. C'est bizarre parce qu'il y a quand même le livre de Mitrokhine qui était sorti l'année précédente. Mais les éditions, je ne sais plus quelle maison d'édition à l'époque, refusent de publier son livre. Et le livre est resté dans un tiroir pendant 20 ans. Quoi.
Donc ce livre de Mitrokhine, là, ce fameux agent qui est passé à l'Ouest en 1992, il y a encore d'autres noms de code derrière lequel se cachent des personnalités françaises, des agents français.
Par exemple,
vous n'avez pas envie d'aller enquêter là-bas là ?
Bah, si, moi j'aimerais bien. Cambridge.
Je pense que Thierry Volton en sait pas mal, parce qu'il a pas mal enquêté sur ces histoires-là. Ouais. Et de fait, son bouquin, il ne l'a pas sorti.
Oui, c'est ça, il est resté dans un tiroir.
Est-ce qu'il a peur de les attaquer ? Parce qu'il manque de preuves.
Je ne sais pas où il en est là.
Peut-être va-t-il sortir maintenant.
Il faut comprendre une chose très importante, c'est que la France était un objectif capital pour les Russes. Pour les Russes et les Soviétiques. D'abord parce que c'était un pays qui était entre deux. C'est un pays qui était avec un parti communiste extrêmement fort, ou avec une intelligentsia qui était pro-soviétique, enfin pro, dans un premier temps pro-stalinienne, mais ensuite avec les fameux compagnons de route du Parti communiste.
Et ensuite, les communistes avaient une aura et les grands intellectuels étaient communistes. Et si vous étiez anticommuniste, on vous
traitait de... D'abord, c'était historique. La France et la Russie, c'est une affaire qui dure depuis quasiment Pierre Ier. C'était la fascination mutuelle, je dis bien politique, aussi bien que... il suffit de lire Hélène Carrère-Dancausse pour en être convaincu. Depuis Pierre Ier, en passant par Catherine la Grande, en passant par Alexandre Ier qui descend les Champs-Élysées en 1814, tout le monde, l'intelligentsia et la politique russe étaient fascinés par la France. Il fallait avoir un pied en France. Et puis ensuite, on passe au 19e et 20e siècle, et là, la France est le pays des révolutions, c'est le pays référence pour la révolution russe, en partie, et donc il y a aussi encore une fascination pour la France. Et enfin, il y a cette importance géostratégique de la France à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant la période de Gaulle, où on est un peu dans l'Alliance Atlantique, mais un peu en dehors aussi. On peut trouver ici en France des gens qui ont été communistes et qui ne le sont plus, qui ont été à l'extrême droite mais qui sont devenus communistes. Il y a vraiment un terrain de jeu pour les Soviétiques et pour l'Europe de l'Est qui est absolument fascinant. Et donc, mais histoire mêlée d'importance géostratégique, la France était un objectif extrêmement important. Puis il y a une deuxième chose qui est importante à comprendre avec les journalistes, c'est que nous sommes des flibustiers. Nous sommes des outcasts, d'une certaine manière. Nous sommes des cadets de famille.
C'est-à-dire on est prêt à se vendre plus facilement que des politiques.
On a chacun d'entre nous des histoires personnelles qui, par exemple, mêlent pour M. Clémentin 3 ans d'Indochine avant de revenir en France et puis de choisir finalement le journalisme et d'intéresser les services
de l'Est. Et 5 maîtresses.
Mais c'est pareil pour Monsieur Grimbert.
C'est l'une des méthodes, ça, on met
maîtresse dans le livre. Ce sont des vies romanesques qui correspondent parfaitement à ce que les Soviétiques, dans lesquels les Soviétiques ou les services de renseignement, quels qu'ils soient, peuvent grenouiller, parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Il y a une maîtresse à payer, il y a un secret à cacher. Et pour Monsieur Grimbach, quand on réfléchit un petit peu à sa jeunesse, eh bien, il a été lui aussi influencé par le communisme. Il a été ce jeune homme très pro communiste et pro-russe dans sa jeunesse, pour ensuite repasser effectivement à ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un grand bourgeois. Mais vous voyez, il y a ces profils-là qui sont des profils un peu de flibustier, intéressent tout particulièrement les services de renseignement.
Alors, oui.
Le plus cependant, c'est qu'il n'y a pas eu tant de noms que ça qui soient sortis, alors que côté britannique, il y en avait plus.
Oui.
Alors que je pense qu'il y a d'autres noms en France. Enfin, il y a d'autres.
On a eu de grandes personnalités aussi où les Britanniques sont tombés des nus en apprenant qu'un tel, travaillait pour.
Oui. Les 5 de Cambridge.
C'était mal. Anthony Blunt,
là,
grand intellectuel.
Corps de l'aristocratie britannique. Et il travaillait pour les soviétiques. Et ce n'était pas des gauchistes. Hein. C'était vraiment, ils étaient vraiment au cœur du système, proche de la famille royale, des machins.
Anthony Blunt, oui, l'historien d'art.
Incroyable, c'est
homosexuel. Oui.
Et donc ils ont été.
Alors homosexuel, c'est-à-dire quand tous, je vous parle d'un.
Non mais on va faire tourner la parole un peu. Stéphanie Duncan, racontez-nous un petit peu. Alors la Grande-Bretagne, oui. Évidemment. Donc c'est là-bas qu'a fait défection le patron de la KGB. Et donc il y a eu plus de noms qui sont sortis en Grande-Bretagne.
Il y a des noms qui sont sortis. Enfin Anthony Blunt, je pense que c'était avant, le nom est sorti avant. C'est Margaret Thatcher qui, dans un discours historique, a révélé devant le Parlement, enfin c'était assez fascinant, elle a dit, voilà, nous avons en Grande-Bretagne un historien d'art, un grand historien d'art qui est en réalité, qui a été pendant très longtemps un agent du KGB, donc Anthony Blunt, une figure de l'histoire de l'art, spécialiste de la peinture française du XVIIIe siècle. Et en plus, il dirigeait les collections royales de Buckingham Palace. Donc c'était quelqu'un qui côtoyait la reine. La reine Elisabeth II, à l'époque, le connaissait. Enfin, et ça a été un choc, effectivement, pour les Britanniques d'apprendre que, voilà, que pendant si longtemps, ils ont été trompés.
Jean-Dominique Mercher, est-ce à dire que toutes ces affaires, Vladimir Poutine aujourd'hui les regarde de près parce que lui-même est un ancien du KGB.
Oui, oui.
Il était en poste, il était un espion en RDA. Hein.
Alors, il était un petit espion parce que faire de l'espionnage en RDA...
On a sa photo, là, voilà.
C'était...
On va voir sa photo de sa carte d'identité quand il était à Dresde, espion à Dresde.
Oui, en fait, quand vous sortiez du KGB, si on vous envoyait en RDA, c'était que la RDA, c'est un pays communiste.
Un pays frère.
Donc vous étiez là pour verrouiller, pour contrôler. Le vrai espionnage, il ne se faisait pas en Allemagne de l'Est, il se faisait en Allemagne de l'Ouest. Et là, il fallait un niveau technique, d'un niveau professionnel bien supérieur. Il y a eu des histoires extraordinaires. L'affaire Guillaume, c'est-à-dire le chef de cabinet du chancelier Brandt était un colonel de la Stasi, des services secrets
RDA,
RDA. Voilà. Donc, non, Poutine, il faisait de la police.
Absolument. Mais lui, il n'a pas basculé à l'Ouest.
Il n'a pas basculé à l'Ouest, non. Mais il était qu'un petit lieutenant-colonel dans un pays communiste.
Permettez-moi d'être pas tout à fait d'accord avec vous. En fait, les travaux les plus récents sur le parcours de Poutine disent exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on l'a mis à Dresde justement pour qu'il ne soit pas exposé à Berlin et qu'en fait, il était l'officier traitant de beaucoup de notamment la fraction Armée Rouge, c'est-à-dire de groupes terroristes qui ont pendant 10 ans semé la terreur en Allemagne de l'Ouest et que c'était lui...
opérations, mais pas du renseignement à ce niveau-là. Des opérations.
Allez, on va avancer. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères a dénoncé une nouvelle ingérence numérique russe. Un réseau de sites Internet piloté depuis la Russie a diffusé de la propagande en Europe et aux États-Unis. Sujet de Léa Dermidjian avec Michel Bouilly.
Son nom, Portal Combat. Sa mission, diffuser la propagande russe. Son mode opératoire, la désinformation. Le réseau Portal Combat a semé le trouble pendant des mois, avant d'être détecté, puis stoppé, par 3 pays en pointe, l'Allemagne, la Pologne et la France.
Nous venons d'exposer ce matin un réseau d'au moins 193 portails d'information numérique dormants. Ces sites devaient d'ailleurs viraliser des contenus pro-russes dans nos 3 pays. Je le redis, c'est inacceptable.
L'ingérence serait-elle devenue une spécialité russe ? Les actes se multiplient. En octobre dernier, quelques jours après les attaques du Hamas, plus de 250 étoiles de David sont taguées dans les rues de Paris. À la manœuvre, des réseaux pro-russes qui cherchent à attiser les tensions. Et parfois... à alimenter la panique, comme avec les punaises de lit. Là, les réseaux pro-russes partagent en masse l'information et détournent des articles de journaux où ils accusent les réfugiés ukrainiens d'être à l'origine de la propagation des punaises de lit.
Les Ukrainiens ramènent des acariens et d'autres parasites sur leurs effets personnels.
Une technique sophistiquée qui n'en est pas à son coup d'essai. Baptisée Doppelganger, en français sosie, cette manipulation est difficile à détecter, selon ce spécialiste.
Là, typiquement, on a un exemple avec le journal 20 minutes, dont le site web a été copié à la perfection, sauf pour l'adresse URL. Au lieu que ce soit 20minutes.fr, c'était 20minutes.ltd ou n'importe quoi autre que .fr qui est le vrai. Et là où ils ont été plutôt malins, pour une fois, c'est qu'ils ont copié exactement le site, et peu importe là où vous cliquez sur le site en dehors du faux article, du faux site, ça vous redirigeait automatiquement vers le vrai site de 20 minutes. Donc il n'y avait aucun moyen de savoir que vous avez été désinformé au bout d'un moment.
La désinformation au service de la géopolitique, ou comment diviser pour mieux régner.
Il y a une stratégie de fond, en tout cas pour l'opération Doppelganger, c'est clairement appuyer, accentuer les fractures qu'il peut y avoir dans la société en France. C'est la stratégie du chaos, tout simplement. Ce qu'ils font avec ça, c'est qu'ils essayent de désinformer la population française, de partager des narratifs qui sont très favorables à la Russie, mais aussi essayer de faire croire que l'aide à l'Ukraine, par exemple, est sans conséquence, que les sanctions n'ont aucune utilité vis-à-vis de la Russie, mais qu'elles ne feraient que heurter les pays européens. Évidemment, tout ça, c'est faux.
Les Européens, justement, sont particulièrement inquiets. Influence, manipulation, désinformation. L'ombre du Kremlin plane à 4 mois des élections européennes, où plus de 400 millions de personnes sont appelées aux urnes.
Les fausses informations sont aujourd'hui beaucoup moins chères à produire et beaucoup plus difficiles à détecter, ce qui rend encore plus dangereuses les menaces asymétriques qui pèsent sur nos démocraties. Cette année est cruciale pour lutter contre les activités de manipulation de l'information et d'ingérence menées depuis l'étranger, parce que nous avons beaucoup d'élections en 2024.
Des échéances électorales en Europe, mais aussi aux États-Unis. L'ingérence russe prise très au sérieux de l'autre côté de l'Atlantique pour les élections américaines de novembre prochain.
Je sais pas. Alors, question téléspectateur Anthony Bélanger, c'est Hubert. Quel est le niveau d'activité du renseignement russe en France actuellement? Là, on a vu des fausses informations que les Russes essayent de faire passer en France. Mais la semaine dernière, il y avait sur France 5 le documentaire Nid d'espions qui montrait qu'un agent, un espion russe avait tenté d'acheter ou de financer la campagne de Jean-Luc Mélenchon en lui disant « on peut vous passer des centaines de milliers d'euros ». Et le collaborateur de Jean-Luc Mélenchon a dit « non ».
Bah oui.
Sinon, il l'aurait pas dit, je pense.
Oui, je pense, voilà.
Mais ce qui veut dire qu'il
encore une fois,
s'il tente, c'est que...
Il faut voir aussi dans quel contexte on se situe. Dans les années 2000, Poutine avait plusieurs alliés en Europe, Vladimir Poutine et le régime russe, notamment en Italie. Il avait Berlusconi, dont on sait très bien qu'il était très proche de Vladimir Poutine, et un peu plus tard, Matteo Salvini. Or, il se trouve que l'Italie a beaucoup déçu les Russes, parce qu'elle est entre les mains de Giorgia Meloni, qui se trouve être pro-OTAN, pro-ukrainienne, et qui défend une position pro-européenne auquel les Russes ne s'attendaient pas de la part d'une leader d'extrême droite. Et quant à Berlusconi, il est mort et Salvini, il s'est ridiculisé. Donc en fait, il y a d'autres... Alors, ils ont de toute façon toujours l'Allemagne en ligne de mire parce que ça reste quand même la première puissance économique de l'Union européenne. Mais la France devient, pour le coup, extrêmement intéressante. Ne serait-ce que parce qu'ils entretiennent des rapports excellents depuis très longtemps avec le Rassemblement national, on le sait bien. Alors, on va essayer de ne pas mériter un procès tout de suite, mais c'est vrai qu'ils ont...
Le Rassemblement national dit, faute de pouvoir trouver des banques en France pour nous financer, on a bien eu d'accepter ce prêt
de ça, plus une vision de la guerre en Ukraine qui est, comment dire, mi figue mi raisin. En fait, ça me rappelle en fait que la façon dont les pacifistes des années 70 parlaient de l'Union soviétique. C'est-à-dire que nous, on n'est pas pro-Union soviétique, on est pour la paix. D'une même manière, le Rassemblement national vous dit non, on n'est pas pro-russe, on est pour la paix. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour que cette guerre continue, se perpétue. C'est exactement ce que souhaite obtenir, d'une certaine façon, Vladimir Poutine, en essayant d'influencer une partie de l'électorat. La France est, pour les années à venir, probablement le point focal, le point extrêmement important sur lequel la Russie va tenter de peser le plus possible. Et puis il y a une autre raison, c'est qu'elle est prenable. C'est-à-dire que partout où la France a des intérêts, la Russie peut les contrecarrer.
C'est-à-dire qu'on est un ennemi à la hauteur de Poutine.
On est un ennemi à la hauteur de la Russie.
Alors,
et dans ses moyens.
Général Christophe Gomard, on a vu tout à l'heure comment le renseignement se faisait en passant par des humains. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les outils du 21e siècle, le renseignement peut changer de cheval de Troie, et je pense bien sûr au téléphone portable. Est-ce que c'est pas le cyberespionnage maintenant?
Il y aura toujours besoin de renseignement humain.
Ah oui.
Pour aller vérifier une information, même si le renseignement humain peut être excellent, comme on l'a dit tout à l'heure à propos de Grumbach, mais également, ça prend du temps. le renseignement humain. Le temps de retourner quelqu'un, d'activer une source, etc. En revanche, le renseignement technique, ça peut être beaucoup plus rapide. Et de fait, vous avez raison, les téléphones portables sont des sources inépuisables parce que ça peut être activé depuis l'extérieur. Et de fait, on n'est pas très prudent et nos dirigeants politiques ne le sont pas forcément. C'est-à-dire qu'on utilise des outils qui sont très ergonomiques, très faciles d'emploi et qui sont facilement, aujourd'hui en tous les cas, pouvoir interceptables. Donc oui.
Et on en a conscience ou pas, les politiques, les journalistes?
Alors,
les...
Par exemple, en France, on a la chance d'avoir un secrétaire général pour la défense et la sécurité nationale qui cherche à développer et à faire développer des téléphones effectivement cryptés, mais dont l'emploi est plus compliqué qu'un téléphone, qu'un simple iPhone ou un simple Android. Donc c'est là la difficulté, c'est de faire en sorte que nos dirigeants utilisent ce genre de téléphone plutôt que des téléphones que tout le monde peut obtenir ou s'acheter. Donc c'est une vraie difficulté. Le renseignement technique aujourd'hui, évidemment, le renseignement sur le cyber et les attaques cyber que l'on voit là avec les tentatives d'influence, les tentatives faites par, tel qu'on l'a vu sur le portail, avec les 193 quand même sites qui ont cherché à nous influencer. Alors il y a ça, mais le renseignement russe est toujours très présent en France. En tous les cas, vous savez que régulièrement, la DGSI, qui est le service de renseignement intérieur chargé de la protection des intérêts nationaux, sort un certain nombre d'agents russes clandestins qui ne sont pas du tout connus dans une ambassade, pour la faire courte. Dans une ambassade, vous avez un poste lié au service de renseignement extérieur du pays en question et vous avez des agents qui sont déclarés. Et vous avez déjà des agents qui ne sont non déclarés ou clandestins, c'est-à-dire qui ont un autre rôle. Et on en a déjà sorti...
Ambassade ni d'espions.
Exactement. On a déjà sorti un certain nombre, à plusieurs reprises. La France en a sorti lors d'histoires précédentes. Et je pense que dans le cas de la guerre en Ukraine, je ne suis pas du tout au courant, mais j'imagine que la DGSI a fait exactement la même chose. Alors évidemment, on fait pas de bruit là-dessus et on n'en parle jamais. Mais en tout cas, c'est fort probable que ça se passe comme ça.
Alors Jean-Dominique Mercier, on a dit comment les Russes essayaient parfois d'influer dans un pays. Je voulais vous soumettre cette phrase, c'est l'actualité, qu'a dit Vladimir Poutine, qui a donné sa préférence pour l'élection présidentielle américaine. Oui, il a dit qu'il préférait Biden à Trump. Poutine dit « Biden, c'est une personne plus expérimentée, il est prévisible, c'est un politicien à l'ancienne ». Donc Joe Biden est sponsorisé par Vladimir Poutine. Comment analyser cela? Est-ce que c'est le baiser de Judas?
Que ça rende service à Biden, voilà. Mais c'est peut-être pas fait d'ailleurs pour lui rendre service. Non, je crois que c'est pas... En plus, je pense que c'est vrai, Biden est un homme beaucoup plus prévisible que Donald Trump. C'est un constat assez sérieux, mais s'il dit ça, c'est certainement pas pour aider Biden. Non, je crois qu'il faut qu'on... Pour faire un peu de pédagogie pour le grand public, les téléspectateurs, quand on parle de cyber et de toutes ces affaires numériques, on mélange des choses. On mélange ce qui relève de l'influence, c'est exactement, c'est-à-dire vouloir influencer l'opinion d'un pays. C'est ce qui a été dévoilé cette semaine par l'agence Viginum et ses 193 sites qui d'ailleurs étaient assez peu actifs. Il y avait assez peu de choses. Moi, je suis assez dubitatif sur les résultats de cette influence en France, parce qu'ils ne font que mettre un peu de sel sur des plaies qui sont des plaies françaises, et ce n'est pas eux qui les ont créées, ces plaies. Les antivax, le complotisme, etc. etc. En revanche, leur influence est beaucoup plus importante, par exemple au Sahel, où ils ont eu des campagnes anti-françaises extrêmement fortes qui ont contribué effectivement à l'échec politique de la France au Sahel. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est l'influence.
L'échec politique de la France au Sahel est en grande partie dû
à
l'influence
russe. L'échec politique de la France au Sahel est dû à des problèmes sahéliens sur lesquels les Russes ont infecté, envoyé, jeté du sel, jeté de la plaie. Mais ce n'est pas eux qui ont créé la situation. Ils ont simplement contribué à infecter une plaie déjà purulente, on va dire, voilà, pour dire les choses. Ça, c'est la première chose, ça, c'est l'influence. Il y a l'espionnage, le renseignement. Le renseignement, vous ne faites pas comme ça. Le renseignement, c'est d'aller chercher des informations là où elles sont stockées, en principe protégé,
de les retirer sans vous faire prendre. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre action. Et ça, ça demande de la discrétion. Vous ne faites pas des tweets et du TikTok avec ça. Vous êtes discret, vous allez chercher des informations économiques, militaires, politiques, voilà, pour vous renseigner. C'est autre chose. La troisième chose, c'est ce qu'on pourrait appeler le sabotage. Mmh. C'est-à-dire que vous vous donnez les moyens de mettre en carafe les systèmes informatiques de votre ennemi. Et c'est ce que tout le monde aujourd'hui craint. Alors, on le voit aujourd'hui, par exemple, sur les attaques sur les hôpitaux français, qui relèvent la plupart du temps du grand banditisme. Hein, c'est clairement des actions délinquantes. En échange de ça, les gens veulent une rançon. Et puis, il peut y avoir des attaques politiques. Et tout le monde aujourd'hui en France est complètement terrorisé par la possibilité d'attaques informatiques russes au moment des Jeux Olympiques.
Alors, dans le secteur économique aussi, les espions seraient partout. Les services de renseignement de plusieurs pays occidentaux s'inquiètent de la hausse sans précédent de l'espionnage industriel de la Chine, cette fois. C'est un sujet d'Aubry Perrault avec Nicolas Baudry-Dasson.
L'image est inédite. Ces cinq hommes se font appeler les Five Eyes, pour les cinq yeux. Les cinq patrons des services de renseignement des principaux pays anglo-saxons. Habitués à travailler dans le plus grand secret, ils sortent de l'ombre pour la première fois en octobre dernier.
Ils le font car ils veulent alerter sur la Chine qui est, selon eux, la plus grande menace en termes d'espionnage que les démocraties n'aient jamais affrontée.
Les entreprises occidentales n'auraient jamais été autant victimes d'espionnage industriel de la part de Pékin. Le groupe de contre-espionnage les exhorte à agir avant qu'il ne soit trop tard.
Les règles du jeu ont changé. Le Parti communiste chinois a adopté une législation qui force toute personne d'origine chinoise, n'importe où dans le monde, à aider leurs services de renseignement.
Il n'y a pas de plus grande menace pour l'innovation que le gouvernement chinois. Et le fait que nous ayons décidé de nous réunir pour le souligner montre à quel point nous cinq, ainsi que nos services, prenons cette menace au sérieux.
Dans la foulée, la Chine dénonce un affront public et met en garde les Five Eyes.
Peu importe qu'ils aient 5 ou 10 yeux, s'ils osent nuire à l'autonomie, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine, ils doivent être conscients que leurs yeux pourront être percés et aveuglés.
Alors, l'Empire du Milieu doit-il vraiment sa puissance à sa capacité d'espionnage économique ? À en croire son rival numéro 1, Washington, Pékin serait devenu le maître en la matière. Exemple avec ses grues, présentes dans les ports américains. Le fabricant chinois peut les piloter à distance. Mais ce qui inquiète les Américains, c'est que l'entreprise serait aussi en capacité de connaître le contenu des cargaisons et avoir de mauvaises intentions. Nouvelle réponse cinglante de la Chine.
C'est de la paranoïa et cela induit en erreur les Américains.
Le 1er février, Washington a pris de nouvelles sanctions contre plusieurs entreprises chinoises soupçonnées d'ingérence. La guerre économique continue.
Ces actions américaines violent les principes de la concurrence sur le marché et les règles économiques et commerciales internationales.
Des entreprises sous sanctions qui en rejoignent d'autres, comme le principal fabricant de semi-conducteurs SMIC ou le géant des télécoms Huawei. La multinationale qui fait la course en tête de la 5G, suspectée d'espionnage au service de Pékin, fait face à une levée de boucliers occidentaux. Alors que la Commission européenne appelle à interdire ces équipements, la France adopte une position en demi-teinte.
Pas d'interdiction globale de Huawei en France, mais la défense de nos intérêts de sécurité nationale.
Le gouvernement français a depuis discrètement prolongé l'exploitation des antennes Huawei. Une bataille menée en coulisses par l'ancien secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen, reconverti en administrateur de Huawei.
On n'est pas atteint par un certain nombre de polémiques. On sait bien que les États-Unis savent mettre en scène et veulent mettre en scène des problèmes géopolitiques qui, quelque part, cette entreprise vraiment a envie de sortir de ces problèmes de nature géopolitique pour être ce qu'elle est, une entreprise multinationale.
La Chine est-elle la seule menace pour la souveraineté économique des entreprises du vieux continent? Le patron d'EDF vient de confier au géant américain Amazon la gestion d'une partie des données numériques de son parc nucléaire.
Dans le Canard enchaîné, l'un des cadres du fleuron français s'alarme et évoque un possible espionnage industriel. EDF, une mine d'or pour les renseignements américains.
Alors, question téléspectateur, Anthony Bélanger, c'est Michel. À propos d'espionnage, souvenez-vous du Tupolev Concordovski, qui ressemblait fortement au Concorde.
Ah, mais ça, c'est une histoire absolument ahurissante, parce qu'en fait...
Je crois qu'on a la photo, en plus.
Oui, oui,
en plus.
Quelques mois avant le décollage de Concorde, qui était une...
Alors, on le voit en bas, le Concorde, et en haut, c'est la copie russe.
La copie russe, oui. Donc, on a eu ça... C'est-à-dire, en fait, on a du mal à comprendre qu'en fait, on a eu ça pendant des dizaines d'années, y compris des choses très graves, comme par exemple des groupes terroristes qui étaient financés par les Russes, des groupes pacifistes qui étaient financés par les Russes, et qui émargeaient en Europe de l'Est, qui allait s'entraîner dans des...
Non, mais alors là, pour revenir sur le Concordovski...
Là, c'est une histoire assez banale. En fait, les Russes, dans le cas de ce que vous disiez, qui était parfait, font aussi de l'espionnage industriel. Les Français et les Britanniques décident de faire un hypersonique ou un supersonique de ligne, Concorde, ils mettent les moyens, et les Russes, qui ne veulent pas se laisser dépasser, et qui n'en ont pas les moyens non techniques, ils ont les ingénieurs, mais ils n'ont pas forcément l'avance que peuvent avoir les Français et les Britanniques, ou la puissance financière qui leur permet de travailler sur Concorde, eh bien, vont voler les plans. Ce qu'ont fait les Français et les Britanniques qui étaient assez malins, c'est qu'ils ont truqué les plans. Ils les ont truqués pour compliquer la vie des Russes et donc et aboutir finalement à un avion qui ressemble vaguement au Concorde, qui roule pas, qui marche pas si bien, qui s'écrase en France en 1973 au Bourget, enfin en tout cas lors d'un
Taverny,
qui s'écrase en France en démonstration et qui finalement est abandonné, qui a fait en tout je crois 100 vols commerciaux. Mais c'est pas le seul. Et vous avez aussi la fameuse, est-ce que vous vous souvenez de la navette Buran?
Bien sûr,
C'est-à-dire en fait une navette spatiale imaginée par les Russes qui ressemble à, comme deux gouttes d'eau, eh bien la navette américaine. C'était la même histoire. Les Russes ont volé les plans et se sont fait manger la haine sur le dos parce qu'en l'occurrence, ils avaient été aussi truqués.
Jean-Dominique Mercier, on va regarder deux avions en ce moment. Le fameux Airbus A320 français qui sort des usines de Toulouse.
Et le Tupolev.
Et le Comac 919 qui est la version chinoise.
C'est vrai que ça se ressemble.
Alors, est-ce qu'Airbus, autrefois Concorde était espionné par les Russes? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Airbus est espionné aujourd'hui par les Chinois?
Oui, sans doute, mais c'est pas parce qu'ils espionnent qu'ils arrivent à le fabriquer, parce que ça marche pas, le C-919. Ils n'ont toujours pas les moteurs, par exemple. Ce qui est le plus compliqué dans un avion, c'est de faire des moteurs. Et l'industrie chinoise n'est toujours pas capable, aujourd'hui, de faire des moteurs d'avions civils.
C'est vrai.
C'est pas parce que vous avez le plan... Vous savez, moi, si je vous donne un manuel de chirurgie, vous n'allez pas m'opérer du cœur, hein, je veux dire, même si vous avez le manuel. Je veux dire, c'est compliqué, ces choses-là. Non, mais tout le monde... Tout le monde fait de l'espionnage économique. Tout le monde. Nous aussi, Français. C'est pas ce que je vous dis, c'est public. Le président de la République, dans le plan national de renseignement, demande à la DGSE de faire de l'espionnage économique. Nous sommes espionnés massivement par les Chinois. Les Chinois raflent tout. Les Chinois raflent tout. Tout ce qu'ils peuvent. Oui. Bien au-delà de leur capacité de traitement. Parce que ils misent sur l'intelligence artificielle, et donc plus ils ont de data, plus ils nourriront leur intelligence artificielle, et un jour ils pensent qu'ils seront capables d'exploiter tout ce qu'ils ramassent. Mais les Américains espionnent les Français, les Israéliens espionnent les Français, les Turcs espionnent les Français, tout le monde espionne tout le monde en matière économique. On est dans un truc concurrentiel, c'est du pognon à la fin.
Oui.
Donc... Après, il y a des enjeux stratégiques. C'est pas la même chose d'étudier les plans d'un avion civil ou d'un médicament que d'étudier le cœur d'une centrale nucléaire ou la forme d'une hélice de sous-marin nucléaire. C'est pas tout à fait la même chose.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.